Charlie Chaplin, c'était vraiment un électron libre, on peut dire. Je pense qu'il a toute sa place au royaume des libertaires. C'est vrai, c'était quelqu'un d'inclassable qui a toujours été aussi un exilé, qui a souvent été un voyageur avec ou sans bagage. Et c'est quelqu'un qui a résisté à un tel cinéma aussi de sa vie. C'est ça qui est passionnant dans ce livre de Mon Tour du Monde, parce qu'allemand, que certains découvrent écrivain vraiment de sa vie. Alors Charlie Chaplin en chiffres, c'est 65 ans, 1000 photographies, 4 d'enfants, bref, une vie très très singulière. Alors je voudrais que vous nous racontiez d'abord l'un et l'autre un petit peu la genèse de ce livre, Mon Tour du Monde, qui vient de paraître aux éditions du Sonneur.
Alors c'est la première fois que ce texte est édité en français. En 1931, il a terminé le film Les Lumières de la Ville, et c'était un moment extrêmement difficile pour lui parce que le Sonneur était arrivé, il venait de sortir un film muet sur lequel il travaillait depuis 3-4 ans déjà. Et c'était la grosse panique, qu'est-ce que le public va... Et aussi, qu'est-ce que je vais devenir après, parce que maintenant il y a le son et Charlot ne parle pas. Et du coup, il a décidé d'abord de faire le tour du monde pour assister aux avant-premières du film, donc en Angleterre, à Monaco, enfin à Monte-Carlo, pardon, et aussi à Tokyo finalement. Il n'a pas assisté à autant de premières que prévu, et il a pris 18 mois, 16 mois de vacances. Où il essayait de se retrouver, il cherchait ce qu'il allait faire. Et pendant ce voyage, un éditeur américain, une éditrice américaine est allée le retrouver à Berlin, je crois, et a signé un contrat, $50,000, il me semble, pour qu'il écrive l'histoire de son voyage pour un magazine féminin qui s'appelait Women's Home Companion. Et donc, c'est le récit de ces voyages interposé de beaucoup de récits sur son enfance. En fait, l'éditrice voulait vraiment une autobiographie. Elle l'a un peu eu, mais pas tout à fait. Donc, c'est le récit de, voilà, je suis partie, j'étais à New York, et ensuite, je suis partie et j'ai fait toutes ces choses.
Oui, c'est ça qui est fascinant, Charlie Sistoares, qui est votre grand-père. Il était identique à la ville comme à la scène. On a l'impression, quand on le lit, il y a beaucoup de scènes qui sont très drôles. Vous allez tout à l'heure nous en lire quelques extraits. Hein. C'est passionnant parce que c'est un personnage. Et ce qui est, je dirais, le premier lien entre la littérature, finalement, le récit de sa vie et sa propre vie, c'est qu'il a créé son personnage, Charlot, dont on fête le centenaire cette année. Finalement, c'est rare qu'un acteur crée son personnage. Cette création vraiment du personnage, fait à partir de sa fascination pour le costume, parce qu'il avait il était fasciné par le costume. Et je voudrais que vous nous racontiez, Charlie Sistoares, un peu la création du personnage de Charlot.
Ah oui, la création du personnage de Charlot, elle s'est faite un peu au hasard. Un jour, donc, il devait... C'était le deuxième film avec la Keystone. Donc c'était un jeune comédien débutant au cinéma. C'était déjà un comédien de musical confirmé. Et il venait d'être engagé par Max Hennett. Et Max Hennett l'avait trouvé formidable sur scène. Mais quand il l'a rencontré, il l'a trouvé un peu jeune. Et il l'a laissé un peu errer dans les studios pendant quelques jours, quelques semaines. Et Chaplin ne se sentait pas très à l'aise. Il a fait un premier essai où il jouait un espèce de baron fauché avec une longue moustache et un chapeau de forme. Et Chaplin avait été très déçu par le résultat, parce que toutes les scènes qui lui estimait les plus drôles avaient été coupées par le réalisateur. Et voilà, et puis donc il y a un nouveau petit scénario qui est proposé. Il faut que Chaplin se trouve un personnage, et il va farfouiller un peu au fond d'un vestiaire, et c'est là où il trouve un pantalon trop large, un gilet étriqué pour souligner un peu les formes, et puis donc pour se vieillir, il rajoute la moustache. Voilà. Donc ça, c'était un peu des contraintes très circonstancielles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dès lors que il enfile ce costume, il habite complètement le personnage. Quoi. C'est que c'est Charlot est vraiment tombé du ciel. C'est pas, alors évidemment, il va évoluer au fil de sa carrière, il va changer, mais il est tout de suite incarné. Quoi. C'est pas des débuts très hésitants où le personnage n'est pas vraiment formé encore. C'était un peu comme une sorte de double. Qui va l'habiter. D'ailleurs, il le dit dans son autobiographie, il raconte comment, dès lors qu'il portait ce costume, il se mettait à parler et à agir de manière totalement inattendue, qu'il réalisait pas lui-même.
Oui, et on voit créer aussi ce personnage avec ce costume de briques et de broc. Comme le ferait un sculpteur presque, il fabrique vraiment son personnage. Mais il faut dire qu'il avait fait des débuts avec une troupe où il était, propulsé parmi le public. C'est-à-dire qu'il était vraiment en direct avec le public, il déboulait, le personnage existait déjà, puisque c'était un personnage de clochard. Départ, il faudrait que nous racontiez un petit peu ce premier rôle tout petit qu'il a eu, enfin grand d'ailleurs, c'est là où on l'a remarqué.
Il jouait souvent un de ses rôles clés. Enfin, Kate me le confirmera parce que.
Vas-y.
L'encyclopédie vivante, c'était Charlie Chaplin. Mais je crois qu'un de ses rôles titre, c'était celui d'un ivrogne. Et il avait énormément de talent, et son arrivée sur scène en fait se faisait du public. Il était au sein du public et commence à interpeller les comédiens. Et le public au début ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, ou est-ce que c'est vraiment un type.
Voilà, il y a des bruits dans le studio. Esprit, es-tu là? L'esprit de Charlot est bel et bien là dans le studio.
C'est exactement ça, il voulait perturber.
Oui.
C'était un perturbateur.
Oui, j'ai bien l'impression,
et
oui.
Ce rôle-là, cette fonction-là, il va la garder tout le long de sa carrière. C'est le grain de sable qui va se glisser dans les rouages et va détraquer toute la mécanique. Soit les films, alors c'était soit il déboule dans une soirée mondaine et puis ça vient à la catastrophe, tout le monde se retrouve par terre avec des spaghettis sur la tête, ou alors dans Le Grand Dictateur, il prend la place, c'est un barbier qui prend la place du dictateur. Les temps modernes, évidemment, voilà, c'est vraiment, il y a comme ça un fil conducteur qui est resté dès le départ, il a été fidèle.
Ouais, une sorte d'invité de la dernière heure, nous en avons eu une petite, des résonances dans le studio, vraiment totalement involontaire, mais l'esprit est là. Mais c'est vrai, voilà, Guyon-Var, comment votre passion pour Charlie Chaplin, comment c'est venu, parce qu'il faut être passionné pour être une encyclopédie vivante comme ça de l'univers de Chaplin.
C'est un travail.
Oui.
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 Vous avez dit que j'étais présidente de l'association Chaplin. C'est pas tout à fait exact.
Non, en fait. Voilà.
Je gère les droits. Donc, je gère les sociétés ayant droit des films et de son image. Et écoutez, quand je suis arrivée, je suis anglaise. J'ai fait des études de français. Je suis tombée amoureuse d'un français il y a 30 ans. Je suis arrivée à Paris cherchant du travail. Et j'ai été embauchée en tant que secrétaire bilingue au bureau Chaplin. Ne sachant pas taper à la machine, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait juste un traitement de texte et je devais écrire mes lettres avec des papiers carbone pour garder trace de tout ce qu'on faisait. Et je n'étais pas passionnée du tout de Chaplin. Je pense que je n'avais jamais vu un film de Chaplin même. Mais c'est au fur et à mesure, maintenant, quand les choses ont changé, quand mes patronnes ont pris leur retraite et je me suis retrouvée face à ces archives, à ces documents, à un moment aussi où le numérique arrivait, où le scan commençait à être possible, on s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix digitaliser tout ça pour conserver, préserver et pour que les gens puissent aussi y avoir accès, peut-être un peu plus. Travaillons pour une génération de Chaplin plus ou moins de mon âge et pas de l'ancienne génération. Donc la famille maintenant était d'accord pour que on puisse consulter les archives plutôt que les garder en secret. Bah écoutez, plus vous lisez, plus vous êtes fasciné par cet homme qui savait tout faire, mais qui non seulement savait tout faire, mais s'efforçait à un tel point à atteindre quelque chose que lui seul savait, mais dans tous les domaines. Enfin, je m'émerveille tous les jours. Donc d'un côté de ça, de tout ce qu'il a réussi à faire, et le fait que les films dont nous détenons les droits marchent encore, et que quand vous allez à un ciné-concert des Lumières de la Ville, c'était de la musique, par exemple, c'est plein, les gens rient, enfin c'est génial, tout le monde passe un très très beau moment, et je sais plus ce que je disais.
Mais c'est fait pour. Vous savez, on pose des questions pour vous exprès. Voilà, c'est des questions avec des réponses à n'en plus finir. Oui, c'est ça,
oui,
la radio.
Je suis désolée.
Oui, mais c'est ça, c'est très bien. Charlie Sistovaris, vous êtes le petit-fils de Charlie Chaplin. Votre mère, c'est Joséphine Chaplin. J'ai l'impression que vous aussi, vous avez finalement, en travaillant près des archives, faire tout ce travail de fond, parce que c'est un travail patrimonial en quelque sorte. Peut-être que, est-ce que vous avez un regard différent ? Il y a d'une part le grand-père, le côté affectif, et puis d'autre part, maintenant, vous découvrez peut-être professionnellement cet homme.
Enfin, oui, absolument. Oui, ben, c'est-à-dire que moi, je suis, au sein de l'association, je suis plutôt... moi, je suis programmeur, donc je passe mes journées plutôt dans les lignes de code. J'ai fait, par exemple, la banque d'images, le site, etc. Donc je ne suis pas en permanence en contact direct avec ce matériel, mais c'est vrai qu'à force de baigner dans les archives, on finit par en être imprégné. Et c'est vrai que je le connaissais bien déjà avant, parce que j'avais vu tous ces films, j'ai fait une école de cinéma, j'étais cinéphile, donc évidemment Chaplin, ça faisait partie intégrante de ma culture. Puis ces films, je les ai vus et revus quand j'étais enfant. Et d'ailleurs, c'est toujours pour moi son œuvre qui peut-être le lien le plus fort que j'ai vis-à-vis de mon grand-père, parce que quand je l'ai connu, c'était un vieil homme très diminué qui ne parlait plus, qui ne marchait plus, et donc l'homme intime, au fond, je ne l'ai pas vraiment connu, mais il est mort quand j'avais 6 ans, et c'est extraordinaire de pouvoir le découvrir aussi bien à travers ses films, parce que c'est là où au fond, il se révèle le plus. Mais à travers les livres, hein, et ça, je veux dire, ce témoignage m'a passionné. Moi, je suis pas toujours. Souvent, les biographies me tombent un peu des mains. Celui-là, il m'a passionné parce que c'est très dense. C'est pas une vie entière. Et il écrit, on a l'impression qu'il écrit au fil de la plume, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que c'était comme disait Kate, c'était un perfectionniste, et il repassait 10 fois, 20 fois, 100 fois sur un texte, comme il le faisait avec ses films. Ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le lien entre son expérience intime et la manière dont elle se traduit dans ses films. Ça, c'est passionnant. Il y a plein de passages. On voit comment une idée qui a été lancée à un moment par Churchill ou une autre par Gandhi va trouver son expression dans les films qu'il réalisera plus tard.
Y compris d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la création du personnage de Charlot. C'est-à-dire, Charlot, c'est aussi son père, parce qu'il a eu une enfance quand même à la Dickens, Charlie Chaplin. C'est un enfant de la balle. D'abord, ses parents, une mère qui est comédienne, un père qui est chanteur, je crois, dans le music hall, mais un père qui a des problèmes d'alcool. Donc, c'est assez la mère qui va finir aussi internée dans... Bon, il y a une enfance très très sombre. Et on dirait que ce personnage de Charlot, c'est la quintessence de toute son enfance. Enfin... De cette enfance qui
est... Oui, sa quintessence, ouais. Oui, c'est exactement ça.
Et avec de la poésie, une sorte de mélancolie qu'on retrouve chez Charlot, et en même temps une sorte de douceur aussi, de l'enfance retrouvée.
Oui, absolument.
Qu'on, tout à fait ça, qu'on trouve dans ce personnage qui va faire son chemin comme un petit morceau de poésie sur écran. Mais c'est, on retrouve ça ainsi d'ailleurs que la femme, enfin il y a le personnage de Charlot, donc c'est, moi j'ai pensé au père, enfin, et puis la femme qui est très jeune. Souvent il y a une très jeune femme, et on connaît le goût de Charlie Chaplin pour les femmes, ça lui a causé beaucoup de problèmes d'ailleurs, pour les femmes fleurs, en quelque sorte, les femmes très très jeunes. Mais il y a ce goût comme ça, il y a cette vision de l'enfance. Je ne sais pas l'un ou l'autre, si vous voulez commenter
je ne sais pas, on peut interpréter comme on veut, mais sa mère comptait énormément pour lui. Sa mère, c'était, comme vous avez dit, son père buvait pas mal et puis il était souvent en tournée. Donc sa mère qui est tombée malade, donc pouvait plus chanter elle-même, elle était plutôt présente tout le temps. Et était apparemment, comme Chaplin lui-même le raconte, extrêmement drôle et très très douée quand elle allait bien. Et il s'occupait bien de Charlie et de Sidney, son autre fils, donc le demi-frère de Charlie. Et elle a tellement compté que le fait d'avoir lui-même l'emmené aux autorités un jour quand elle avait complètement perdu la tête, il devait avoir 7-8 ans. Et avoir dû, parce que les voisins lui ont dit mais elle va pas bien, il faut qu'elle aille à l'hôpital, etc., avoir dû l'emmener lui un jour au médecin et l'abandonner aux autorités, j'imagine que ça a aussi une espèce de culpabilité vis-à-vis de sa mère, lui est resté aussi longtemps dans sa tête, dans sa vie, et que c'était peut-être aussi ça qu'il cherchait à make better, en anglais on dit, je sais pas, remédier, pas effacer, mais
sublimer
quelque part, parce que, enfin je sais pas, si on se met à sa place.
Non, difficile, hein, même vous, Charlie Sistovaris, et pourtant vous êtes son petit-fils. Mais c'est vrai que votre grand-père Charlie Chaplin disait à un moment donné, et là on est dans le livre de nouveau, parce que c'est un peu la machine à remonter le temps, ce livre aussi. À un moment donné, il dit qu'il veut revivre sa jeunesse, qu'il veut se redonner en quelque sorte le temps de vivre toutes ces rencontres. Il a ce goût-là de...
Oui, bah, quand à chaque fois qu'il retourne à Londres, c'est pour revisiter son enfance. Qu'est-ce que je voulais dire
c'est une malédiction aujourd'hui.
non, mais c'est vrai que... Quand il retourne à Londres, bon, il est déjà retourné une première fois. C'était juste, est-ce que c'était après ou avant d'avoir tourné Le Kid ?
C'était juste après Le Kid.
C'était juste après
oui,
Le Kid.
Après Le Kid, ouais, Le Kid avait énormément de succès et il est parti à Londres juste après.
Et Le Kid, c'est le premier film où il revisite vraiment, enfin, concrètement son enfance. Puisque c'est Jackie Coogan, c'est un peu son double version enfant. Et à la fin des Lumières de la Ville, il est aussi arrivé un peu à la fin d'un cycle dans son cinéma. C'est-à-dire que les films qu'il va faire par la suite sont beaucoup plus portés vers l'extérieur, sont plus engagés politiquement, alors que on a le sentiment qu'aussi bien le cirque que les Lumières de la Ville et même La Ruée vers l'or, d'une certaine manière, sont des films qui sont beaucoup plus dans l'introspection. C'est une interprétation personnelle, mais on peut facilement imaginer que le personnage de la veuve dans les Lumières de la Ville, donc qui vit dans les ténèbres, c'est une sorte d'écho à la folie de sa mère, qui elle aussi a été vivait dans les ténèbres de la folie. Enfin, et c'est un film d'ailleurs qu'il a réalisé juste après la mort de sa mère. Et on a le sentiment que arrivé là, il a vraiment il est arrivé à la fin d'une sorte de d'auto-analyse à travers le personnage de Charlot et donc il se retrouve un peu sans mission. Il est le cinéma, alors bon, il y a cette cause la plus apparente, qui est l'arrivée du parlant qui bouleverse la donne. Mais je pense que c'est aussi ça qui le rend un peu perplexe, et il a besoin de s'ouvrir, d'aller voir le monde pour se redécouvrir. Et c'est à ce moment-là qu'il est le plus ouvert à revoir Londres et à partir à l'aventure.
Voilà. Alors on peut dire qu'il est à la fois acteur et spectateur. C'est ça qui fait sa grande qualité d'acteur, c'est que il sait regarder.
Bah, d'ailleurs, en anglais, ça s'appelle A Comedian Sees the World. Un comédien voit le monde. Donc, il est tout à fait spectateur.
Vous voyez, je suis dans le vrai. Peut-être que, Charlie Sistovaris, vous allez nous mettre dans le bain en lisant un extrait du livre. Voilà, pour qu'on soit. Alors, je vous laisse, vous avez carte blanche, donc vous choisissez les extraits que vous voulez.
Qu'est-ce que j'ai comme extrait Pardon, parce que je savais pas du tout par où commencer.
Alors, il y a des petits problèmes techniques. Bien sûr, c'est encore Charlie Chaplin qui joue des tours. Alors, à moins que vous nous lisiez tout simplement les premières pages du livre, comme ça, on est ou la découverte de Londres, par exemple.
Écoutez, je vous lis le début.
Ça va être mon casque qui fait des bruits parce que je jette le casque. La première page du livre, Mon tour du monde de Charlie Chaplin, qui va me paraître aux éditions du Sonneur.
Alors, au cours des 20 dernières années, j'ai fait 7 fois l'aller-retour entre Los Angeles et New York, ainsi qu'un voyage inoubliable en Europe. Le travail était l'unique raison de ces déplacements, lors desquels une épée de Damoclès planait constamment au-dessus de ma tête. Étant donné que j'étais installé à Los Angeles depuis 20 ans, il n'y avait rien d'étonnant à ce que les périodes d'inactivité aient fait de moi une victime toute désignée aux incartades sentimentales. D'où tous mes problèmes. De problèmes avec la presse. Les désillusions de l'amour, de la gloire et de la fortune m'ont en quelque sorte abattu. Rien ne semble pouvoir me distraire de mon travail, ce qui, au bout de 20 ans, commence à me contrarier. J'ai besoin que soient ranimées mes émotions. L'amour et les gens me lassent, et comme tous les égocentriques, je me replie sur moi-même. Je veux revivre ma jeunesse, saisir à nouveau les atmosphères et les sensations de l'enfance, si lointaine, si irréelle désormais, presque un rêve. J'ai besoin de remonter le temps, de m'aventurer dans le passé flou et de lui rendre sa netteté.
Voilà, c'est comme une photo. Il y a un voyage comme ça dans le temps, dans ce regard sur le temps.
Oui, il a besoin de... Comme les photographes qui remettent...
Avoir plusieurs regards sur le temps. Voilà. À propos de photos, vous avez quand même un fond de 10 000 photographies. C'était énorme, ça. Le fond que vous aviez photographié.
Alors, on a la chance d'avoir toutes les photos qui ont été prises au studio Chaplin. Donc, il a commencé le cinéma, comme l'a dit Charlie, en 1914. Et il a gagné assez d'argent entre 14 et 17 pour devenir son propre patron et construire ses propres studios. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont gardé toutes les photographies qui ont été prises sur les tournages et pour la publicité et juste pour le tournage, pour se rappeler des objets qu'ils avaient mis sur telle table, tableau sur tel mur, etc. Et tous les gens qui rendaient visite au studio. Donc ça en fait pas mal, de 1918 à 1952. Il les prenait essentiellement pendant les tournages des films pour la publicité. Donc on a une jolie trace, en fait, parce qu'il y a des négatifs qui n'ont aucun numéro. On a des négatifs qui ont des numéros parce qu'ils ont trouvé l'image bien. Donc après, on a les tirages originaux qui ont été finalement non, c'est marqué NG, no good, pas bien derrière. Et c'est intéressant de voir lesquels ils ont choisi. Après, ils mettent derrière très soigneusement à quel magazine a eu le droit, à quelle photo pour la publicité. Sachant qu'ils ne laissaient jamais sortir les photos des meilleurs gags. C'est-à-dire, il gardait toujours, par exemple, les choses dont on se souvient le plus maintenant, quand il est dans les machines des temps modernes, ou la machine à manger dans les temps modernes, ou la danse des petits pains de la rue vers l'or, n'existait pas en photo publicitaire pour le film. Et d'ailleurs, on ne prenait pas de photographie pendant le tournage de ces scènes-là. Il ne voulait pas que ses meilleurs gags échappent, fuitent à la presse avant.
Donc il y a une sorte de... On préserve quand même l'intimité, le secret de la création. Et les photos sont en parallèle, mais ne prennent pas la place du... Voilà.
Voilà, bah pour ce qui est considéré la clé de chaque film, en fait.
Ouais. Ouais. Alors, on va voir si du côté de musique, ce qu'on nous réserve un petit peu. On va écouter quelques notes de musique et puis nous vous retrouvons tout de suite après.
Birds are calling, skunks are crawling, wagging their tails for love. Spring is here, whales are churning, worms are squirming, wagging their tails for love. What is this thing on which I sing that makes us all bewitched? What is this thing that comes in spring that gives us all the itch? Oh, it's love, it's love, it's love, 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 love,
Vous êtes bien... Ah non ?
Si.
Ah, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Décidément, on a plein de problèmes de technique aujourd'hui, mais c'est pas grave. Nous, vous écoutez Bibliomanie, aujourd'hui en présence de Claire Guyon-Var et de Charlie Sistovaris pour Mon Tour de Monde de Charlie Chaplin qui vient de paraître aux éditions du Sonneur. Voilà, je vous ai presque tout dit, j'espère que l'émission va bien se dérouler. Il y a des esprits frappeurs aujourd'hui, ils sont terribles, hein, Charlie Sistovaris, les esprits frappeurs. Votre grand-père en connaissait un rayon. Pour les gags, les rebondissements, les pirouettes.
Oui, oui, écoutez, je pense qu'il y a un charlot là qui s'est glissé dans le micro
et qui nous joue des tours. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. C'est vrai, bon, on a parlé vraiment de l'enfance de Charlie Chaplin, qui était vraiment sombre, de cet art de la poésie cinématographique, ce qu'il en a fait. Et à travers donc ce livre, Mon Tour du Monde, moi, je découvre vraiment son regard vraiment de voyageur avec bagage ou sans bagage. Et il passe son temps, finalement, il fuit quand même pas mal. Il est toujours en train de et toujours sur le départ, Charlie Chaplin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Kate Guyon-Var. Mais c'est vrai qu'il est toujours en train. Alors, par exemple, il dit qu'il est incapable de faire des projets à long terme et toujours dans l'obligation de changer pour fuir les lettres, finalement, d'admirateurs, parce qu'il a beaucoup, beaucoup de lettres qui lui parviennent.
Et des tonnes de lettres. Il est à Londres, je crois qu'il est obligé d'embaucher 2-3 secrétaires pour répondre aux lettres. Mais il n'y avait pas que des invitations, il y avait aussi plein de gens qui lui écrivaient disant mon père a mal au dos, il peut plus travailler, est-ce que tu veux pas nous envoyer des sous? Donc il y avait énormément de demandes d'argent, ouais. Surtout en Angleterre, peut-être moins en France, je sais pas, mais il y avait aussi beaucoup de demandes mondaines qui ont dû sans doute lui faire énormément plaisir au début, peut-être surtout lors de son voyage en 21, son premier retour à Londres où il était parti comme un petit pauvre jeune, sans rien, et il revient riche. Moi, mes documents favoris, préférés dans les archives, c'est un talon de chèque de cette époque-là, de 1921, où on voit qu'il s'est acheté des pyjamas en soie juste dans la rue German Street, qui est juste derrière Piccadilly, qui est là où les gentlemen s'habillent, dans des boutiques extrêmement chères. Et Chaplin a pu aller chez Turnbull & Nasser, qui était la grande marque de l'époque, s'acheter des pyjamas. Donc je me demande comment il a dû se sentir à ce moment-là. Mais ça, c'est 10 ans avant la période dont on parle aujourd'hui. Donc là, maintenant, il est habitué à être riche, à être sollicité par les aristos, par tous ces gens-là. Donc maintenant, il est à Londres et peut-être il a moins envie de à part certains qu'il connaît depuis un certain temps, mais il n'a pas envie d'aller à tous ces dîners. Il a envie de retrouver son Londres et d'être en vacances.
D'être en vacances, c'est ça. C'est un peu les... Pas les éternelles vacances, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, qui a beaucoup travaillé. Charlie Sistovaris, votre grand-père, a énormément... On sent que c'est quelqu'un qui est toujours en pleine activité, en pleine création, en pleine cogitation de son univers imaginaire.
Oui, oui, c'était, comme on dit en anglais, un workaholic. Il était, il pouvait pas se passer du travail, c'était un perfectionniste qui tournait 50 fois la même scène jusqu'à ce qu'il en soit satisfait. Ces périodes de vacances étaient très courtes et puis en général plutôt dédiées à ses aventures sentimentales qui avaient tellement d'ennui. Donc je pense que c'était peut-être aussi pour ça qu'il les prolongeait pas trop, qu'il allait vite se remettre au travail pour fuir les procès, la presse
et les médias. Oui, donc là, c'est vraiment la première fois où, à notre connaissance, où il prend autant de temps en vacances. Et il va, par exemple, dès que la neige tombe, il va à Saint-Moritz parce que son ami Douglas Fairbanks, qui est aussi préoccupé par l'arrivée du sonore, Douglas Fairbanks lui dit « Mais moi, je vais à Saint-Moritz » et il passe quand même 3 mois. Mais là, il y avait toute l'aristocratie européenne à Saint-Moritz. Donc, il y avait des fêtes incroyables. Ils partaient tous en groupe dans la montagne. Enfin, c'est une vie que nous, on peut très mal imaginer. Parce qu'à cette époque-là, les gens aisés ne travaillaient pas. Il n'y avait aucune pression. Donc, tout le monde était là pour dépenser des sous, pour faire la fête, pour boire du champagne et... De temps en temps, accessoirement, pour skier, j'imagine.
Oui, et ce qu'on n'a pas rappelé aussi, c'est que quand même, entre la sortie de la misère, parce qu'il a connu la misère, l'accession à la célébrité, et après à côtoyer tout ce qu'on peut appeler le gratin international, en fait, ça a duré que 4 ans. Donc, en l'espace de 4 ans, entre 14 et 1918... Il a connu une ascension fulgurante. Enfin, ça a été comme... C'est quelque chose, il passe d'un univers à un autre, et avec une sorte de même bonheur de regard, puisqu'il le dit lui-même dans ce livre, que ce qui lui plaît le plus, c'est la nature de sa popularité, et notamment le sourire, chez ses admirateurs, de voir une sorte de lien d'affection. Il y est très sensible. Il parle du premier rire, par exemple, du premier rire qu'il entend... Quand il est très sensible à ce lien-là, et on lui dit d'ailleurs qu'il a la chance de croiser rarement des mines attristées, effectivement, puisqu'il a l'art de provoquer une sorte de bonheur dans l'œil du spectateur, dans l'œil de ses admirateurs, et ça c'est très émouvant pour lui. On sent vraiment, je ne sais pas Charlie Sistovaris ce que vous en pensez, mais on sent que vraiment pour Charlie Chaplin, peut-être pas de partage, enfin de connivence, de complicité, et quelque chose de très précieux pour lui.
Oui, d'abord, il n'est pas avare de reconnaissance. Pour lui, la reconnaissance des foules, il prend... Alors, même si au bout d'un moment, ça devient un peu contraignant, parce qu'il ne peut pas sortir sans qu'il y ait des foules immenses qui se forment derrière lui. Donc, il peut plus, à un moment, il ne peut plus se déplacer. Quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup de ses amis sans peine en disant « Mais fais-toi pousser une barbe, moi, je ne sors plus avec toi, c'est fini. Bon. » Il y en a un qui lui dit « Pour $1 million, je refuserai d'être toi. » Et lui, il en jouit, et il prend ses bains de foule, et par moments, il se fait même un peu docte en disant, en expliquant un peu quelle est la psychologie des foules, comment elles se transforment, comment elles peuvent aussi ne pas se former. Mais je pense que pour lui, le plus important, c'est les premiers rires du public.
Voilà.
Parce que tout son succès repose là-dessus. Et à partir du moment où il ne fait plus rire le public, c'est fini. Il comprend bien aussi que la reconnaissance, aussi bien de la presse que du public, est quelque chose de très éphémère. D'ailleurs, il en fait l'expérience quand il retourne à un moment en Angleterre. aussi bien la première fois, il est accueilli en héros, il est célébré, il croule sous les louanges. Autant la deuxième fois, c'est l'objet de scandales. On sent que la presse a un peu envie de démolir l'idole. Hein. Donc c'est le premier, les premiers rires dans la salle lors de la première des Lumières de la Ville, qui est pour lui une libération. C'est quelqu'un qui est pas du tout, qui n'a pas confiance en lui, parce que c'est quelqu'un.
Il reste toujours très timide d'ailleurs.
Il est très timide, donc sans cette reconnaissance, il est perdu.
Ce qui est amusant dans le livre, par exemple, c'est qu'il s'amuse à ne pas être Charlie Chaplin pour séduire de jeunes filles. Enfin, à un moment donné, il fait semblant de ne pas être lui-même.
Alors, c'est amusant parce que c'était lors d'un tournage. Et donc, il était très mal habillé, un peu décoiffé. Et à la cour d'inspiration, il part se promener. Et puis, il voit deux jeunes Anglaises, une jeune fille, pardon, une jeune ouvrière. Et il l'aborde et il se fait passer pour un professeur d'anglais. Et il sent bien qu'elle le croit pas. C'est une espèce de bonimenteur qui va. Elle a rendez-vous avec une copine. Il insiste pour l'accompagner. Cette amie arrive et puis leur propose de les inviter au restaurant. C'est tout un jeu et on sent que il a vraiment envie de jouer un peu au magicien, de sortir le lapin du chapeau, parce que il arrive au restaurant, qui est un restaurant très chic, et les deux filles ne croient pas une seule seconde qu'il va effectivement rentrer là-dedans, enfin, qu'on va même le laisser rentrer. Et puis tout d'un coup, elle découvre des gens très obséquieux qui l'accueillent en faisant des corbettes, qui l'amènent à une table. Ah, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Alors, elles sont de plus en plus ébahies et elles ne comprennent pas ce qui se passe. Et à un moment, quelqu'un dit Monsieur Chaplin, bon là. Elles comprennent, elles tombent des nues. Il y en a une qui manque de s'évanouir, je crois.
Oui, puis elle change d'attitude en plus. Parce qu'au départ, on voit l'évolution. L'évolution de jeunes femmes. Et puis lui, qui mais il est toujours dans un rôle aussi. Il est toujours dans une recherche de personnages et de répliques.
Je pense que c'était aussi pour lui un moyen de. Enfin, de jouir de sa célébrité, c'est...
Vous croyez ou c'est aussi quelque chose, le jeu fait partie de la vie, enfin, ou c'est quelque chose un peu... Parce que quand on lit ce livre, c'est ça qui est très intéressant. D'abord, il y a une sorte de rapidité d'écriture, même si lui-même dit qu'il lit très lentement, mais il y a une sorte de... C'est comme de dessin au trait, on va voir pour les personnages. C'est très incisif, c'est fait de rien, et on sent qu'il se plaît à ça, c'est une sorte de questions-réponses avec la vie.
Alors, je pense que lui, il prenait l'humour très au sérieux. L'humour, oui. c'était un travail. Et je pense que à certains moments, il se permettait d'être spontané et d'être joueur. Mais j'ai l'impression que c'était surtout quelqu'un d'extrêmement exigeant et qui rigolait pas beaucoup entre les prises.
Je pense que c'est. Mais qui aimait beaucoup, d'après ce que j'ai compris, faire rire les autres lors des dîners, lors des soirées mondaines. Enfin, il était. Je pense qu'il était incapable juste d'être là. Et puis, puisqu'il était timide, comme l'a dit Charlie, il était obligé de jouer quelque chose, de faire la comédie, de faire une petite scénette, et puis peut-être les autres l'attendaient de lui. Le faux langage allemand, par exemple, dans Le Dictateur, qui fait si bien, il paraît que lors des dîners, il faisait le chinois, le russe, il était capable de faire rire aux éclats tous les gens qui l'entouraient, mais à répétition. Parce que je pense qu'il faillit combler le trou de mais qu'est-ce que je peux dire
Donc il était toujours en scène finalement.
Je crois. Ouais. Et puis on voit aussi dans les photos de famille et les films de famille qu'a pris son épouse Una, que dès que la caméra, même dans le jardin, à la maison, était sur lui, il joue, il fait Napoléon, il met la main sous sa veste, il fait semblant de descendre un escalier derrière le canapé quand il n'y en a pas, il mange les fleurs, enfin,
Il joue toujours.
Toujours. Alors, il y a des. Ce qui est assez amusant à lire, c'est justement la réaction de ses admirateurs, parce que je dirais qu'ils font la moitié du chemin. Alors, il reçoit toutes sortes de lettres, de courriers d'admirateurs. Il y en a un qui lui cède sa Légion d'honneur, qui lui envoie par. Et puis, un autre aussi, ça c'est Émile Ludwig, qui est un écrivain allemand, et qui lui offre un brin d'herbe. Je trouvais que sa scène était assez belle, en hommage, vous savez, aux couronnes de laurier des Grecs. Il lui offre un brin d'herbe. Ce geste d'offrir un brin d'herbe, on revient à cette sorte de légèreté de l'être, de cette poésie de rien du tout de Charlie Chaplin, Charlie Sistovaris.
Oui, oui, oui. Alors, c'est Ludwig qui lui offre. Oui, alors, mais c'est son commentaire, parce qu'il le trouve un peu extravagant, ce biographe. Et son commentaire dans le livre, c'est de dire que il comprend au bout d'un moment que c'est la manifestation de sa timidité et que cette espèce d'extravagance qu'il a au départ est en fait simplement un symptôme de timidité qui doit très bien, comme l'a dit Kate, connaître lui-même. C'est le fait d'être en représentation, c'est pour masquer son manque de confiance.
Quoi. Oui, mais c'est... Oui. Il parle toujours, lui, ce qui l'intéresse Charlie Chaplin, c'est quand même d'intensifier les sensations, les couleurs, les sons. C'est vraiment, il est vraiment dans cette recherche un peu, parce que lui, il définit l'artiste comme celui qui élargit l'éventail, notre prisme de sensations. Et il y a un petit peu ça, hein, toujours. Il a toujours les yeux ouverts sur. Et c'est pour ça que Charlie Chaplin est vraiment, on le découvre dans ce livre, un excellent portraitiste. Je sais pas l'un et l'autre si vous pouviez, mais l'art du portrait chez Chaplin, il est absolument étonnant. À moins que Charlie Sistovaris va nous lire un portrait tout de suite, qu'on voit un peu cet art du portrait qu'il a vraiment.
Alors, je peux vous lire un petit passage. Il y a un passage très drôle avec le roi des Belges. C'est un gag en soi. Alors, ce que vous disiez au sujet de l'art, c'est intéressant parce que justement, c'est lors d'un dîner en Angleterre avec Bernard Shaw, qui est un auteur de tragédie, je crois.
Comédie. Dramatique, c'est assez drôle.
Mais c'est un homme, c'est un orateur,
oui,
très
voilà.
brillant,
ouais.
Et lui il défend l'idée de l'art comme devant être engagé. Et Chaplin n'ose pas répondre parce qu'il a peur de se faire laminer par ce grand orateur. Et donc il prend l'occasion dans le livre pour défendre son point de vue en disant, mais ce qui est intéressant, c'est que ensuite, d'une certaine manière, il va poursuivre cette idée puisque ses prochains films vont être engagés.
C'est oui.
modernes et
voilà.
dictateurs. Je vous lis un petit passage sur Churchill, parce que parmi toutes les célébrités qu'il a rencontrées, c'est probablement la plus emblématique de l'époque. Churchill avait l'air de beaucoup apprécier Chaplin. Et donc, il faut se remettre un peu dans le contexte. On est en 1931. Et Chaplin rencontre Churchill et Churchill va lui proposer des gags. Alors, je vous lis. Je suis impatient de retrouver mon ami, l'honorable Winston Churchill. Ralph et moi sommes invités dans sa magnifique maison de campagne de Westerham, dans le Kent. J'ai rencontré M. Churchill pour la première fois en Californie alors qu'il donnait des conférences. Ses manières directes et modestes m'avaient aussitôt charmé. Il a un petit cheveu sur la langue et est légèrement voûté comme Napoléon. Cet homme audacieux dégage un dynamisme immédiatement perceptible. Orateur hors pair, il récite à l'improviste et à toute allure de remarquables épigrammes. L'homme d'État se double d'un excellent écrivain et d'un peintre accompli. Il m'avait dit lors de son séjour américain avoir appris par les journaux que je souhaitais réaliser un film sur la vie de Napoléon. N'hésitez pas. En plus de la dimension dramatique, ne mettez pas le ressort humoristique. Napoléon dans sa baignoire où il se disputera avec son frère autoritaire, vêtu de son uniforme aux gants dorés. Voilà une occasion de mettre l'empereur en situation d'infériorité. Mais dans sa rage, ce dernier éclaboussera volontairement l'élégante tenue de son frère qui, humilié, sera alors contraint de prendre congé. Vous tenez là une scène non seulement subtile psychologiquement, mais aussi comique et pleine d'action. Ouais. Donc voilà Churchill soufflant à Charlie Chaplin les gags de son film qui, 8 ou 9 ans plus tard, vont devenir quasiment trait pour trait les gags entre Mussolini et Hitler.
C'est ça.
Des spaghettis à la figure et qu'il y en a toujours un qui cherche à prendre le dessus sur l'autre et qui se retrouve en position d'infériorité parce que il baisse le fauteuil. Voilà. Moi, je trouve cette scène extraordinaire parce qu'elle est tellement, elle réunit en une seule phrase Churchill. C'est presque Yalta dans le
champ. Oui, puis en plus, on voit ça justement. L'art inspire la vie inspire l'art. Kate Guyonvar, je pense que là, vous nous rejoignez là-dessus sur cette espèce d'osmose, enfin de dialogue permanent entre l'art de Chaplin. Et sa vie, enfin, c'est toujours une sorte d'aller-retour entre...
Complètement. Et puis, il y a un autre livre qui est sorti aussi en France, il y a peu de temps, aux éditions Le Seuil, qui parle des Feux de la Rampe, Limelight, mm-hmm. le dernier film qu'il a réalisé aux États-Unis, qui, lui, est presque totalement basé sur, d'une part sur l'enfance de Chaplin, sur le music hall anglais des années 10, et aussi de la fin de sa carrière américaine, où il pensait que plus personne l'aimait, où il était détesté à cause du climat politique de l'époque, une grande vedette réduite à chanter dans des petits théâtres où personne ne l'écoutait, où tout le monde sifflait, et ça, vraiment, oui, tout à fait, je veux dire, son œuvre a commencé pour finir là. Effectivement, il a fait, il a écrit son autobiographie après. Il a fait Un roi à New York et La comtesse de Hong Kong. Mais pour moi, quelque part, ce sont des petits ajouts, enfin, pas des petits ajouts, je peux pas dire ça parce qu'il a quand même fait des films énormes. Mais pour moi, la carrière de Chaplin, c'est surtout sa carrière américaine, enfin, c'est sa vie américaine et qui est complètement imbibée de sa vie anglaise.
Donc, il y a vraiment un dialogue permanent entre les sources d'inspiration. Les dialogues sont très présents dans ce livre, le sens du dialogue. Et pourtant, c'est quand même au départ le cinéma muet, etc. Mais le sens du dialogue, le mime, le science des dialogues. Et puis, dans les personnages, il parle d'écrivains, hein, Maeterlinck, par exemple. Il dit de lui que c'est l'alliance entre un philosophe et un enfant. Enfin, il parle aussi d'un de ses amis qui s'appelait Ralph Barton. Qui avait un peu la crainte. Alors ça, c'est la crainte du tic-tac de l'horloge. Donc
voilà, ils ont débranché toutes les horloges. Oui, Ralph Barton était très connu, très doué, un dessinateur vraiment magnifique qui dessinait pour les magazines et les journaux américains, qui avait beaucoup de succès et qui avait un énorme chagrin d'amour. Et c'est pour ça que Chaplin l'avait embarqué. Il l'avait vu à New York en disant bon bah si t'es déprimé, tu vas venir avec moi et faire le tour du monde. Et Ralph a supporté Londres hein, et puis il est reparti aux États-Unis malheureusement pour se suicider.
Ouais. Il n'a pas pu le sauver de cette angoisse du temps. Là, on parlait du temps tout à l'heure, mais on sent qu'il a un réel sens de l'amitié aussi dans cette petite notation comme ça d'observateur. Et George Orwell, par exemple, on parlait de machine à remonter le temps, mais c'est vrai, il parle de lui, il dit qu'il était capable de rendre les sujets les plus abstraits limpides, qu'il avait cette sorte de capacité d'emmener son interlocuteur dans la quatrième dimension.
Et c'est ça, de H.G. Wells, ouais. C'est ça, oui. Il était assez copain avec lui. J'ai vu une coupure de presse où après, dans les années 30, on voit Paulette Goddard en tenue de tennis avec H.G. Wells à côté. Donc, Wells était en Californie pour... Je ne sais pas s'il a une petite flirt avec Paulette Goddard ou pas, mais je crois qu'ils se sont fréquentés pas mal. Il connaissait bien John Steinbeck. Mm-hmm. Il s'est éduqué tout seul parce qu'il a très peu été à l'école, mais une fois... arrivé, une fois installé dans sa carrière, il a vite fait de lire tout ce qu'il pouvait, surtout des philosophes, tout ce qui lui manquait, en fait, tout ce qu'il avait l'impression de manquer. Et donc il avait vraiment, il avait lu énormément de choses pour s'instruire.
Il dit qu'il n'est pas un grand lecteur puisqu'il lit lentement. C'est un autodidacte, Charlie Chaplin, Charlie Sistovaris. Votre grand-père était un autodidacte ou quelqu'un qui, bah forcément, qui s'est fait tout seul.
Oui, un autodidacte, c'est extraordinaire hein, parce que autodidacte dans le cinéma, autodidacte dans la musique, autodidacte en tant qu'écrivain. Et toujours un peu obsédé par cette lacune d'avoir manqué son éducation. Je me souviens, c'est Michel, mon oncle, qui dans une interview disait que son père lui disait que le plus important c'était l'éducation des enfants, parce que ça c'était un capital qu'on gardait toute sa vie. Le reste était très aléatoire. Et donc, c'est quelque chose qui. Cette absence, ce qu'il a manqué comme éducation enfant, c'est quelque chose qu'il a essayé de combler toute sa vie. Et il s'était fixé comme objectif d'apprendre un mot par jour dans le dictionnaire. Alors, il ouvrait oui. au hasard son dictionnaire. Et il y a une de ses maîtresses, Paula Negri qui se moque de ça parce qu'ils ont eu une brève aventure et qui se moque un peu de lui parce que ils ont une dispute et dans une de ces phrases il y a ce nouveau mot, le nouveau mot que je viens d'apprendre,
le mot du jour.
Non mais c'est vrai qu'il y a toujours cette gourmandise de la vie, du savoir, des mots. Et en même temps, il cite un moment des mots de Maeterlinck qui dit, donc ça c'est Maeterlinck, hein, c'est une phrase de Maeterlinck, il arrive un moment dans la vie où la beauté morale semble sans doute plus nécessaire que la beauté intellectuelle, où toutes les acquisitions de l'esprit doivent se déverser dans la grandeur d'âme sous peine de mourir. Et c'est vrai, il y a toujours ce souci et par la suite, cette préoccupation qu'on va retrouver dans son cinéma. D'engagement, hein, de par-delà la poésie, par-delà cette forme de beauté artistique, il faut pas oublier la conscience de soi et des autres et de savoir d'où l'on vient. Il a jamais perdu le sens de ses origines.
Oui, oui.
Charlie Sistovaris.
ça fait écho au passage précédent où il cherche à contredire Bernard Shaw sur la nécessité pour l'art d'être engagé. Là, finalement, on a l'impression qu'il commence à se ranger à cet argument et à dire que on peut pas faire abstraction, et surtout à cette époque-là, de la crise. Et il est au sommet de la gloire. Enfin, sa célébrité est absolument phénoménale. Et puis, le public a cette adulation dont il est le témoin, surtout pendant ce voyage, avec ces attroupements absolument gigantesques de gens hystériques qui veulent le toucher. Il y a des scènes d'archives qui font un peu peur parce qu'on a l'impression que cette foule va l'engloutir.
Oui, il devient une idole.
Il devient vraiment une idole. Enfin,
une icône.
Les idoles ne font pas le figure à côté. Voilà, c'est ce moment de sa vie où il se demande un peu ce qu'il va faire, puisqu'il y a ce cinéma parlant qui remet les choses en question. Ben, on sent qu'il est tenté par la politique à ce moment-là, puisqu'il rencontre plein d'hommes politiques, et que cette idée est en train de se glisser, de grandir dans son esprit.
Oui, c'est ça, c'est toujours à l'état latent, c'est dans sa vie que ça se passe, et après ça... Ça éclot bien des années plus tard ou dans la création, proprement dit, la création cinématographique.
Et puis il parlait beaucoup, ses meilleurs amis étaient des intellectuels de gauche. À partir des tôt des années 20, il passait beaucoup de temps avec les éditeurs de journaux gauchistes, Max Eastman, j'en ai plus en tête. Upton Sinclair, qui était plus âgé, mais qui a quand même fait ce livre incroyable, le jungle, la jungle, c'est la jungle en français, the jungle qui raconte les conditions épouvantables des usines de viande à Chicago et d'ailleurs, moi, j'essaie toujours de faire mettre dans un livre, mais tout le monde, une personne m'écoute, qu'il y a une scène dans ce livre où le personnage principal, ayant perdu son job et devient un peu un clochard errant dans les États-Unis, rencontre quelqu'un de très riche qui l'aide. Et dès que ce personnage n'est pas ivre, il ne le reconnaît plus. Et Chaplin reprend ça dans Les Lumières de la Ville. Je suis persuadée qu'il l'a trouvé dans ce livre, mais bon. personne ne me croit. Mais Upton Sinclair voulait devenir gouverneur de la Californie. Et il a même annoncé que Chaplin, s'il était élu, Chaplin serait... ils n'ont pas des ministres quand c'est un État, mais je ne sais pas, un de ses représentants. Mais je pense que Chaplin ne voulait pas le faire, d'ailleurs. Mais il était très, très entouré de gens qui parlaient beaucoup de politique. Donc, il a beaucoup appris d'eux. Et puis ensuite, quand les artistes européens ont commencé à quitter l'Allemagne, les musiciens, Brecht, Thomas Mann... les Eisler, etc. Il était très entouré de ces gens-là. Donc la politique était extrêmement présente dans sa
vie.
Donc
très acteur dans la vie et politique.
Je ne sais pas, il n'était pas acteur. Enfin,
si, actif.
Il a prononcé quelques discours, en effet, mais il baignait dedans.
Alors, il est aussi très lucide. Alors, en même temps, on sent dans sa vie quand il a quand même créé son propre studio. Ça, c'est quand même, il crée sa famille cinématographique. Comme très important. Il crée tout, en fait. Avec des liens qu'il a aussi avec son demi-frère Sidney. Enfin, tous les deux se complètent à merveille parce que je crois que Sidney a le sens des affaires, beaucoup le sens des affaires. Parce qu'il a pas totalement
je suis pas persuadée que Chaplin n'avait pas le sens des affaires.
Ben oui, mais il en joue justement.
Il en joue, pour les négociations de ses premiers contrats, ouais. Il disait que Sidney le faisait, mais à mon avis, Charlie savait très bien ce qu'il voulait et il n'aurait pas lâché l'affaire si Sidney était parti ailleurs. Et ensuite, il s'est entouré des meilleurs avocats, d'un très bon manager. Donc lui, il papillonnait à écrire ses scénarios, papillonner entre guillemets, parce que c'était très difficile la plupart du temps, son travail, mais c'était un très très bon businessman.
Oui, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il y a une scène avec un violon, il jouait très mal du violon, et bref, il a obtenu, c'était son frère qui faisait les tractations pour avoir...
ça, c'était pour la signature avec la First National, je crois.
Ah, et finalement, Chaplin savait très bien, Charlie Chaplin savait très bien là où il voulait en venir, à force de jouer du violon, par une stratégie d'acteur, il a obtenu ce qu'il voulait. Bon, voilà. Mais en même temps, on le sent, il crée sa propre famille, son studio, c'est une création quand même très importante. Et il n'est pas dupe du jeu non plus, justement. Le vedettariat, bon, il en parle ici, mais il le dit à plusieurs reprises, il ne veut pas être un objet de curiosité. Il veut à chaque fois, il en joue, mais en même temps, il ne veut pas du tout être tombé. Il y a même la phobie des présentations. À un moment donné, il est dit qu'on doit le présenter. Parfois, ça le met un peu mal à l'aise dans certaines circonstances.
Oui, enfin,
c'est ce que j'ai lu. Hein,
On voit bien que quand il était en vacances, entre guillemets, pendant cette période-là, ça ne le gênait pas d'aller à droite et à gauche et d'être présenté partout. Par contre, quand il travaillait dans ses studios... entouré de sa famille, comme vous dites, mais ce qui était plus ou moins courant à l'époque, les studios avaient des stock actors, donc c'était toujours les mêmes acteurs qui jouaient dans les films mais avec des maquillages différents. Chaplin a fait la même chose quand il est arrivé, quand il a eu ses studios, il a choisi ceux avec qui il voulait travailler sur une longue période, mais il avait à chaque fois un représentant pour la presse et il donnait que très peu d'interviews, vraiment quand c'était très nécessaire. À partir du moment où il était son propre patron, où il ne travaillait pas pour d'autres boîtes de distribution, où il était obligé de faire la publicité et donner des interviews à des journaux, il a très très peu parlé. C'était le service de presse qui rédigeait des articles, des choses qu'il lançait à la presse de temps en temps pour annoncer un nouveau film. Et d'ailleurs, il me semble, c'est possible que je me trompe, mais Je pense que 18, 19, 20, 21, même pour les kids, etc., il n'a pas donné d'interview. Le premier, sa première prise de tête avec la presse, c'était pour l'opinion publique en 1923, où il a fait une œuvre dramatique dans laquelle il ne joue pas, et il voulait expliquer pourquoi et inciter les gens à aller le voir. Donc là, effectivement, oui, il donne des interviews, il écrit un statement pour la presse, etc. Mais sinon, il était plutôt en retrait.
En plus, il n'en avait pas vraiment besoin, parce qu'il n'avait pas besoin d'être dans la presse pour se faire de la publicité. Donc, c'était uniquement contraint à forcer. Puis, c'était un control freak. C'est quelqu'un qui avait besoin de contrôler absolument tous les paramètres. Mm-hmm. Effectivement, il y a une part d'improvisation quand on est soit sur scène, même s'il était habitué à la scène, mais c'était du temps de Carnot avec un rôle bien déterminé, mais jeté sur scène sans trop savoir quoi dire. Ce genre de présentation, je pense qu'il avait le trac, ça restait quelqu'un de très timide, et il n'avait pas envie d'être exposé de manière aussi nue. Qui se protège, c'était
une sorte de protection, d'autoprotection. Et ça reste un homme authentique qui... avec toute sa jeunesse aussi d'esprit, parce que la jeunesse est là longtemps, enfin, et on le voit dans sa façon d'écrire, d'être présent à la vie. Il y a une sorte de, voilà, il cueille l'instant présent, enfin, et toujours dans la. Je crois que c'est votre mère, Joséphine Chaplin, qui disait que son père était imprévisible. Mais il y a un peu de ça, parce que la vie, il y a en même temps beaucoup de professionnalisme dans sa. Son perfectionnisme, son souci, vraiment sa préoccupation d'aller au bout des choses, sa passion, c'est une passion, et en même temps il y a un côté geyser permanent de l'existence.
Il y a un excellent portrait de Chaplin dans le livre de David Robinson, qui n'est pas écrit par David Robinson, mais que David Robinson cite. Et je crois que c'est un contemporain de Chaplin, je ne sais pas, Kate, si ça te dit quelque chose, mais où il explique, où en fait il énumère un peu toutes les contradictions de personnage, c'est-à-dire à la fois qui pouvant être très spontané, charmant, et en même temps tyrannique et renfermé, à la fois très ouvert sur les autres, très égocentrique, et à la fois très, très amoureux, dans un cœur d'artichaut, mais finalement... retombant facilement dans l'indifférence, il énumère toutes ces contradictions. Ce que je trouve d'après ce que je peux pressentir du personnage, assez juste. Et on peut répondre à la question, un contradictoire, enfin, contradictoire.
Ça rejoint son costume qui était contradictoire. Voilà. Nous sommes dans la contradiction. On va voir si les notes de musique vont nous apporter la contradiction ou la confirmation. On va voir ce qui se passe.
When I was three, my nurse told me about reincarnation, and ever since I've been convinced, thrilled with anticipation, that when I leave this earth, it makes my heart feel warm to know that I'll return in some other form. But I don't want to be a tree sticking in the ground. I'd sooner be a flea. I don't want to be a flower waiting by the hour, hoping for pollens to alight on me. So when I cease to be, I want to go back, I want to go back, I want to go back to the sea. All for the life of a sardine, that is the life for me. Cavorting and spawning every morning under the deep blue sea. To have no fear for storm nor gale, oh, to chase the tail of a whale. Oh, for the life of a sardine, that is the life for me.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui, en présence de Kate Guyon-Var et de Charlie Sistovaris pour nous présenter Mon tour du monde de Charlie Chaplin qui vient de paraître aux éditions du Sonneur. Voilà, nous parlons de Charlie Chaplin. Nous avons eu quelques petites pirouettes en technique. Ça a l'air de s'être calmé. Les esprits frappeurs sont bien sagement à notre. Ils nous écoutent. Voilà. Charlie Sistovaris, c'est vrai, bon, on parlait de l'esprit de la contradiction de votre grand-père, de ce tarde, voilà, de faire, d'être le grain de sable, hein, qui change tout, ce fameux grain de sable. Ça nous évoque aussi les temps modernes, c'est les rouages de la machine qui commencent à devenir complètement, complètement folle, la folie des temps modernes. Et c'est vrai que comme il rencontre dans ce livre, Mon tour du monde, des personnages très importants, ça le met dans des situations complètement hilarantes et contradictoires.
Hein? Je vous lis cette scène parce que c'est oui. Vraiment une scène. On dirait du Charlot. Donc, il est invité à voir le roi des Belges. L'attente est un peu longue avant qu'il puisse le rencontrer. Donc, la tension monte chez lui. Il est de plus en plus fébrile. Finalement, le roi l'invite à s'asseoir dans une chambre avec lui. Et donc, le monarque me désigne un fauteuil, en approche un pour lui et m'invite à m'asseoir. Il est très grand. A un visage bienveillant et ses manières sont mesurées. Sa taille imposante souligne sa dignité royale. Malheureusement, mon siège est très bas et en approchant le sien, qui est très haut, si près du mien, le roi accentue considérablement notre différence de taille. Mon nez arrive au genou de sa majesté. Puisqu'elle reste silencieuse, je comprends qu'il me faut débuter notre conversation. C'est un immense honneur et un grand plaisir de vous rencontrer, votre majesté. Le roi me répondant. Que d'un simple signe de la tête, je suis embarrassé. Je suppose que vous ne resterez pas longtemps à Paris ? Non, dit-il calmement. Je poursuis. D'après ce que je comprends, vous êtes venu en avion ? Oui, répond le roi. D'une voix de plus en plus faible, perdant le peu d'assurance qu'il me reste, je continue. C'est formidable, vraiment formidable. J'aime beaucoup prendre l'avion. Oui, j'aime beaucoup cela. C'est tellement sensationnel et excitant. Je ne parviens pas à parler d'autre chose et ajoute les mains jointes comme pour prier et le regard pensivement tourné vers la fenêtre. Oui, l'aviation est appelée à durer et l'avion s'imposera. Cette dernière phrase me trouble. Suis-je censé parler d'aviation ou cinéma parlant ? Sa Majesté me dévisage étrangement. Je lui adresse un pâle sourire. Vous devez être un homme extrêmement occupé en ce moment. J'ai alors le sentiment d'avoir été trop familier. Était-il approprié que j'utilise le mot « homme » ? En même temps, il était impossible de lui dire « Vous devez être un roi extrêmement occupé en ce moment. » Faisant mine de ne pas m'avoir entendu, Sa Majesté me demande « Réalisez-vous tous vos films en Californie ?»« Oui, monsieur, répond Jean Hatt. Ne serait-il pas possible que vous les réalisiez désormais n'importe où dans le monde, depuis l'avènement des droits moraux et de tous les dispositifs photographiques que vous avez développés ?»« Oh, si !» La glace ayant été brisée par cette remarque, la conversation devient plus aisée. En sus du cinéma, nous parlons d'art, de littérature et de science, sujet sur lequel le roi a des points de vue les plus stimulants. Au moment de me retirer, je suis à nouveau un peu dubitatif quant à l'étiquette à respecter. Enfant, on m'a appris qu'il fallait prendre congé d'un membre de la famille royale à reculons. Étant seul, cela me semblerait grotesque. Je trouve donc un compromis et rejoins la porte tel un crabe, cherchant à tâtons en même temps que je faisais mes adieux.
On voit tout de suite, c'est très...
Voilà, qui résout la contradiction et part en crabe.
C'est marrant, parce que c'est vraiment ce voyage à reculons. Remarquez, c'est un titre de Jules Verne et ça pourrait être le titre aussi, le sous-titre de Mon tour du monde. C'est aussi un voyage à reculons. Et en même temps, il évoque aussi, alors, on pourrait parler du passage du cinéma parlant, c'est-à-dire que Chaplin n'aimait pas trop sa propre voix, d'après ce que j'ai entendu, vu. Enfin, il a résisté à l'arrivée du cinéma parlant. Peut-être que Kate Guyon-Var peut nous parler de cette étape quand même capitale. Chaplin a été résistant, si on peut dire.
Résistant parce que Charlot parlait à tout le monde. Ouais. Charlot était universel. Chaplin était connu dans le monde entier parce que son personnage de Charlot trouvait écho dans les cœurs de tout le monde. Donc, mais s'il parlait, il parlerait quelle langue? Il faudrait qu'il parle anglais. Et du coup, il perdrait
l'universalité.
L'universalité de son langage. C'était impossible que Charlot parle, parce qu'il perdait tout.
Donc il fallait qu'il reste dans la gestuelle,
donc c'est pour ça qu'il a défendu la pantomime si fermement. C'est pour ça qu'il a les Lumières de la Ville, qui pensait à un certain moment sortir en film parlant, il a gardé en muet. Et puis il a quand même pris le risque de, en 36, quand il n'y avait plus du tout de film muet, de faire les temps modernes. Bon, c'est un film sonore parce qu'il a, comme pour les Lumières de la Ville, il a composé la musique. Donc les Lumières de la Ville est sortie sonore, c'est-à-dire avec une musique et des effets sonores. Les temps modernes, la même chose, avec un peu plus de dialogue enregistré par-dessus. Mais quand même, c'était un énorme risque pour lui. Mais Charlot ne pouvait pas parler.
Les Lumières de la Ville, c'est 190 jours de tournage. Ça a été quand même... la conception de ce film a été très difficile, il le dit lui-même.
C'est 190 jours de tournage sur 3 ans, je crois.
Oui, sur 3 ans. Ouais. Ah, voilà.
Donc il y a énormément de périodes de... Ouais. De je ne sais pas quoi faire, je vais partir en bateau quelque temps, je licencie l'homme de qui jouait le millionnaire, je licencie mon cameraman, je licencie même Virginia Cheryl à un certain moment parce qu'elle était en retard après un déjeuner ou je sais pas quoi. Donc ça allait très très mal pendant ce tournage. Tout le monde ne fonctionnait pas comme il le voulait.
38, c'est le grand dictateur. Donc c'est là, il va avoir aussi des problèmes d'ailleurs politiques aux États-Unis. Donc ça, il faudrait aussi qu'on en parle. C'est quand même, voilà, Chaplin a dérangé énormément. On l'a accusé d'être communiste. Il était quand même politiquement incorrect aux États-Unis.
Le dictateur était politiquement incorrect parce qu'il est sorti à un moment où il était en tournage à un moment où les États-Unis, enfin, la guerre n'était pas encore déclarée, et les Anglais et les Américains pensaient que si Chaplin faisait ce film, c'était peut-être pas le moment parce que peut-être qu'ils allaient pouvoir se réconcilier quelque part avec l'Allemagne et faire un film contre Hitler à ce moment-là. Il y a pas mal de lettres dans les archives d'autorité lui demandant peut-être de reconsidérer son projet. Et puis il a annoncé dans la presse que ça a été annoncé dans la presse qu'il renonçait au projet. Et puis tout de suite après, lui, il a dit mais non, pas du tout, j'ai jamais eu autant envie de faire ce film. Mais pour rebondir sur le langage et Charlot, dans Le Dictateur, donc son premier vrai film parlant, il y a énormément de blagues de langage, notamment dans le faux allemand, que les anglo-saxons comprennent, mais qui sont perdus pour le reste du monde. Déjà, il y a des petits blagues, des jeux de mots, et déjà, même la signe des nazis, c'est une double croix, to double cross quelqu'un en anglais, ça veut dire faire des choses derrière son dos, etc. Donc, il y a des choses de base qui sont compréhensibles pour les gens qui parlent anglais, pour les anglophones, et pas pour les... Pour le reste du monde.
Ah oui. Et dans les temps modernes, c'est la dernière apparition de Charlot, c'est les temps modernes. Et c'est vrai que c'est à la fois un film visionnaire, enfin, c'est tout, vraiment là, on voit vraiment son regard sur la pré-modernité. Maintenant, on dit la pré-modernité, mais c'était la modernité de ce temps-là. C'est avec des images quand même, photographiquement, justement, et visuellement, c'est pictural, quoi. On parlait de sa façon de concevoir ses costumes qui est finalement comme des tableaux vivants. Et là, vraiment, il y a un sens du cadrage, il y a un sens du rythme aussi, très important chez Charlie Chaplin. Charlie Sistovaris.
Oui, les temps modernes. L'image de Charlot glissant dans les rouages de la machine, c'est devenu une icône. Il y a quelques années, il y a eu beaucoup de livres qui sont sortis sur le harcèlement au travail. Et je pense que pour la moitié d'entre eux avaient comme couverture la photo de Chaplin,
bah oui,
dans les rouages de la machine. Quoi.
C'est devenu un symbole.
Le symbole de l'aliénation au travail. De cette forme d'abrutissement et d'exploitation sauvage du travail. Et Oui. Non, les temps modernes, c'est. C'est devenu presque un film historique.
Historique. Hein,
qui est enseigné dans les écoles pour illustrer ce qu'a pu devenir le capitalisme.
Le capitalisme, donc c'est
totalement échevelé. Et c'est extraordinaire que ce petit bonhomme. Moi, j'aime beaucoup l'image. Moi, je la ressors souvent cette image, mais de cet homme qui, en traversant l'Atlantique, donc en quittant la vieille Europe pour aborder les États-Unis, le Nouveau Monde, traverse en fait le siècle et va être une sorte de caisse de résonance. Des grands mots de ce siècle, aussi bien le totalitarisme que ce qu'il dénonce dans les temps modernes.
Bon, c'est une sorte de petit poussé qui va traverser les deux bouts de l'Atlantique et qui nous une sorte de point d'interrogation, Charlie Chaplin, qui
nous a laissé des thèmes qui sont toujours actuels aujourd'hui, malheureusement, et dans le dictateur et dans l'état moderne. Oui. C'est ça aussi.
Et quelle œuvre vraiment visuelle et au point de vue de la pensée. J'aurais aussi, qu'on peut d'ailleurs terminer là-dessus, c'est aussi l'amour des animaux de Charlie Chaplin. Alors j'ai compté un lapin, une chienne, et au moment de sa mort, presque j'ai entendu dire, il avait un chat qui s'appelait Othello, et qui a miaulé pendant, il paraît-il, un petit peu avant sa mort. Je ne sais pas, Charlie, est-ce que c'est de la légende ou pas? Enfin, moi, j'ai entendu...
Il me semble que ma mère m'a raconté ça. C'était le chat de ma mère.
Voilà, déjà.
Othello, c'est un magnifique siamois tout noir qui ne m'aimait pas du tout, qui me faisait un peu peur.
et pour cause.
Et il était toujours sur les genoux, mon grand-père. C'est la blague de des proches, vous savez, le chat n'est plus sur les genoux de mémé, c'est qu'elle est froide. Et effectivement, le chat a dû pressentir l'arrivée de la mort de Chaplin parce qu'il s'est mis à miauler au milieu de la nuit une heure ou deux avant sa mort.
Un chat de mauvais augure, ouais, voilà, ouais, et ça arrive. Ouais, ouais. Et ça, surtout dans la vie de Charlie Chaplin, tout arrive. je rappelle donc ce livre que vraiment nos auditeurs doivent lire s'ils veulent connaître Charlie Chaplin par Charlie Chaplin. C'est Mon tour du monde de Charlie Chaplin qui vient de paraître aux éditions du Sonneur. C'est la première traduction, la première fois qu'il est traduit quand même en français. Donc c'est un inédit, une traduction complètement inédite de Moya Durieux, très vraiment réussi. Donc ça, voilà. Je vous remercie l'un et l'autre. Merci à vous, Kate Guillon-Var. Et merci à vous, Charlie Sistovaris. Et je vous dis à la fois prochaine.
Swing, little girl, swing high to the sky. And don't ever look at the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. You'll never find rainbows if you're looking down. Life may be dreary, but never the same. Someday it's sunshine, someday it's rain. Swing, little girl, swing high to the sky. And don't ever look to the ground. If you're looking for rainbows, look up to the sky. But never, no, never look down.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est encore Bibliomanie. Vous savez, c'est une émission à tiroir et à pirouette. Donc nous sommes toujours là avec nos deux invités, donc Charlie Sistovaris et Kate Guillon-Var, qui nous ont parlé d'un livre, Mon tour du monde, de Charlie Chaplin, bien sûr, qui vient de paraître aux éditions du Sonneur. Alors il y a toute une actualité autour de Charlie Chaplin. Donc ce soir, au théâtre de Colombes, il y a un spectacle spécial Chaplin.
Chaplin qui s'appelle Retour de flamme, Claire Guyon-Vard.
Kate.
Excusez-moi.
Non, mais je suis type. Non, Retour de flamme, c'est une série de spectacles faits par Serge Bromberg qui reprennent des anciens films et des restaurations. Et là, son Retour de flamme sur Chaplin, je pense, va aussi parler de comment il a restauré les. Parce que je crois que vous allez parler du coffret des DVD
oui,
qui suit.
Oui.
Comment il montre comment on restaure les anciens films et aussi il montre des petits inédits que les gens n'ont jamais vus de Chaplin, des tournages au studio, etc. C'est vraiment très très drôle.
Alors après, il y a des DVD, des coffrets dont vous pouvez peut-être nous parler aussi. Chaplin Inconnu et Chaplin chez Eisner.
Alors, Chaplin Inconnu, c'est un documentaire qui a été tourné dans les années 80 par deux historiens de cinéma très vénérés, vénérables, Kevin Brownlow et David Gale, pour une télé anglaise qu'on attendait depuis longtemps en DVD en France et Lobster Film viennent de le reprendre et ça montre Chaplin au travail. Vraiment, pour ces films chez la Mutual, donc en 1915-1916, comment à l'époque où la pellicule ne coûtait pas cher, on pouvait travailler sur la pellicule. On n'avait pas besoin d'écrire des scénarios, donc ils testaient des personnages différents, des acteurs différents. C'est en trois parties et c'est vraiment très, très, très intéressant. Vous le trouverez sur le site de Lobster. D'ailleurs, j'ai vu hier qu'il y avait une promotion dessus, parce que je l'ai acheté moi-même.
Ah bon.
Et le coffret SNA, c'est le dernier coffret dans la série des restaurations que Serge Bromberg et Eric Lange de Lobster ont fait sur les premiers films de Chaplin, qui donc, étant domaine public et ont été éparpillés dans le monde entier en copies mauvaises, les gens ont vu franchement les gens, vous n'avez jamais vu les premiers films de Chaplin comme vous pouvez les voir maintenant dans ces nouveaux coffrets. Il y a eu les Keystone de 1914 il y a deux ans je crois, l'année dernière ils ont fait les Mutuals donc 16 et 17 pardon, et là vous avez les SNA, ceux qui viennent entre temps. Quand Chaplin était chez la SNA en 1915, avec de nouvelles musiques et des restaurations d'images vraiment sublimes.
Donc deux outils pour bien comprendre
tout à fait
l'univers, la façon de travailler de Charlie Chaplin. Alors après, il y a une exposition, oui, il y a toute une exposition à la galerie La Chambre Claire à Rennes jusqu'au 29 janvier 2015. Quelle est un peu la thématique de c'est Charlie Chaplin
des c'est photos. Juste des très belles images qu'ils ont choisies dans nos archives et qu'ils ont décidé d'exposer. C'est des images, certaines connues et d'autres pas du tout. C'est une très belle choix d'images.
Et puis, il y a toujours une exposition, le Musée de l'Élysée.
Le Musée de l'Élysée à Lausanne, voilà. Où nous avons déposé nos archives photos. Ils ont, jusqu'en janvier, une très très belle exposition sur l'engagement politique de Chaplin, donc en commençant avec Charlot Soldat en 1918. Je crois que ça s'appelle Chaplin entre les deux guerres, je me souviens pas très bien du titre de l'expo, mais donc on voit et Charlot Soldat et l'engagement pour les bons de la liberté que Chaplin a fait en tournée pour récolter des fonds pour la guerre, les fonds de guerre américain, et ensuite le dictateur en 38 aussi pour la deuxième guerre mondiale. C'est une très très belle exposition.
Plus un autre livre aux éditions du Seuil
qui s'appelle Footlights ou les feux de la rampe, donc une nouvelle inédite de Chaplin, première fois pareil publiée en français.
Ça, c'est aussi très important.
Qui montre, qui explique les débuts des feux de la rampe, et c'est entouré par une introduction et des chapitres extrêmement intéressants par David Robinson, le meilleur biographe de Chaplin, qui met en contexte complètement le départ de Chaplin des États-Unis, son amour pour le musical anglais, sa mère, son père. Enfin, pour moi, c'est le livre le plus sublime sur lequel j'ai jamais travaillé depuis que je travaille au bureau Chaplin. Donc, j'en suis très, très fière.
Et puis, alors, j'encourage les auditeurs, on peut aller voir votre site où il y a l'association Chaplin. Voilà, c'est une association dont vous pouvez brièvement rappeler le rôle, peut-être Charlie Sistovaris. C'est pour défendre le patrimoine. En fait, vous faites un travail vraiment de veille sur le patrimoine Charlie Chaplin.
Oui, oui, oui. Alors, il y a l'association, c'est aussi la société qui gère les droits. Donc, c'est à la fois un travail de protection des archives et du patrimoine, de l'image, mais aussi un travail de promotion, notamment.
Voilà, affaire à suivre. Bah écoutez, je vous remercie l'un et l'autre, vraiment. Claire Guyon-Var et Kate Guyon-Var, excusez-moi, mais c'est aujourd'hui, il y a des petits troublions dans l'air. Et Charlie Sistovaris, pour nous avoir parlé de Charlie Chaplin et plus précisément de ce livre, Mon tour du monde, qui vient de paraître aux éditions du Sonneur. Je remercie aussi Lise Bouzidi-Vega à la technique qui a assuré la présence technique. C'est très important dans une émission. C'était l'émission Bibliomanie qui aujourd'hui vous était présentée par Valère Marie Marchand, qui vous dit à la fois prochaine.
Change la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre, les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler.
Allez au poste d'abandon.